Bon, eh bien, après une longue interruption de nos séances, nous sommes ravis de reprendre nos travaux. Alors cette fois-ci, la séance qui a été organisée par Denis Merclaine est en rapport avec le thème du séminaire qu'on a commencé à travailler au premier semestre, c'est-à-dire sujet, subjectivité, subjectivation. Et donc le titre « Les politiques de l'individu » évidemment est tout à fait apte à nous aider à réfléchir à tout ça. Donc peut-être d'abord nous allons présenter Monsieur Robert Castel, dont on pourrait dire qu'on ne le présente plus, comme on dit à la télévision, donc qui est sociologue, auteur d'une œuvre très importante, dont d'ailleurs le dernier ouvrage avait été présenté aux journées doctorales de l'année dernière. Et qui s'intitule La montée des incertitudes. Voilà, c'est le dernier ouvrage qu'il a publié. Et puis Marc Bessin, qui est sociologue et qui, dont le dernier ouvrage s'intitulait comment ?
Non, je crois qu'il s'appelle Bifurcation.
Bifurcation, voilà. Et qui est donc collègue de Denis Merclaine, qui est notre collègue à tous ici. Et je crois que vous avez préparé tous les trois un ouvrage ensemble, n'est-ce pas?
Bon.
Et donc c'est peut-être de cela que vous allez nous parler.
Oui, voilà. Brouillon.
Bien, alors écoute, je crois que c'est maintenant à vous de nous parler de tout ça, donc on vous écoute.
Merci Martine. Dans la réunion du CSPRP de l'année dernière, Martine a présenté un projet de séminaire pour cette année, qu'elle a présenté l'objet de ce séminaire. Je me suis immédiatement trouvé concerné par ce thème, parce que on travaille depuis quelques années avec Marc et Robert autour de ce thème des politiques de l'individu, dont on essaye effectivement de préparer un texte qu'on aurait dû avoir au mois de mars 2011, mais bon, on va vous présenter plutôt quelque chose qui est en chantier. Et donc l'origine de cette recherche, c'est une invitation de Robert Castel à participer tous les deux, Marc et moi, dans son séminaire à l'EHESS qu'on a fait ensemble pendant 3 ans autour des questions de l'individu et des protections sociales, et qu'on a arrêté après pour justement commencer à écrire ensemble, et nous travaillons sérieusement et systématiquement depuis, mais bon, on n'avance jamais aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc on va vous présenter aujourd'hui les choses à peu près là où elles sont. Dans l'ordre de parole, Robert parlera en premier, je suivrai, et Marc pour la dernière partie. Nous avons prévu de vous parler un quart d'heure chacun à peu près. Je laisse ça. La parole à Robert Castel.
Oui, bonjour. Et puis alors, c'est vrai que on vend un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, là, parce que ce livre, il paraîtra, ça fait certainement, mais il n'est pas écrit. Et donc, il est en chantier, comme le disait Denis. Alors, oui, on peut vous présenter... comme ça, une première esquisse, oui, en tout cas, ces lignes directrices. Alors, vous, d'ailleurs, je ne vais pas donner une définition savante des politiques de l'individu, mais je crois qu'on pourrait caractériser une politique de l'individu par une politique ciblée sur des individus ou sur certaines catégories d'individus et qui intervient sur ces individus eux-mêmes. Et dès lors, on pourrait penser que la reconnaissance, la promotion de l'individu est lié au développement de politique de l'individu entendu de cette façon. Mais c'est une erreur, pensons-nous, parce qu'il y a une reconnaissance et une présence forte de l'individu avant qu'il n'y ait des politiques de l'individu à proprement parler. Et il nous semble que la consistance de l'individu a d'abord été construite par des politiques qui ne ciblent pas les individus, mais au contraire qui les désindividualisent, si je puis dire, parce que ils parviennent au statut véritable d'individus seulement s'ils sont encastrés dans des systèmes de régulation collective. Et l'individu, pourrait-on dire, dans la modernité, est d'abord un effet de son inscription dans des collectifs. Et alors, pour rendre compte de ce qui peut apparaître effectivement un paradoxe, nous avons pensé écrire un premier chapitre dont je vais vous dire quelques mots, là, dont l'intitulé vraisemblablement ce serait « L'individu dans la modernité organisée ». Et nous avons emprunté ce terme de modernité organisée à Peter Wagner, qui est un sociologue allemand, auteur d'un livre que nous pensons important, qui s'appelle « Liberté et discipline, les deux crises de la modernité », et qui a été traduit, le livre est de 1995, et il a dû être traduit un ou deux ans plus tard chez Métayer. Et d'ailleurs, alors ce terme de modernité organisée a d'ailleurs une signification très proche de ce que d'autres, dont moi d'ailleurs, ont appelé la société salariale, c'est-à-dire une forme d'organisation sociale, la forme d'organisation sociale qui s'impose dans les principaux pays d'Europe occidentale, surtout dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 70 environ, c'est-à-dire vers la fin de la trajectoire du capitalisme industriel, on y reviendra tout à l'heure. Et alors cette structure sociale, cette formation sociale se caractérise par la prépondérance des modes d'organisation collective coordonnés et légitimés par une présence forte de l'État, ce qu'on appelle l'État social. Alors, cette modernité organisée succède à ce que Peter Wagner appelle la modernité libérale restreinte, c'est-à-dire la période qui a suivi les révolutions de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au d'ailleurs au moins le début du XXe siècle, et pendant laquelle la possibilité d'être socialement un individu a été en quelque sorte confisquée par une minorité d'individus. On sait en effet que la dignité, la prépondérance de l'individu est affirmée avec éclat dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait de l'individu à la fois le fondement de la légitimité politique et de la responsabilité morale. Cependant, si on regarde un petit peu autour de soi, comment les hommes et les femmes vivent dans la société, ce qui est être un petit peu sociologue, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas du tout pour un grand nombre d'individus, et même pour la majorité des individus appartenant au milieu populaire. Et ça n'est pas seulement vrai sur le plan de la citoyenneté politique, parce que comme vous le savez, le suffrage censitaire va restreindre l'accès réel à la sphère politique à une minorité de propriétaires et de notables, mais c'est aussi évident sur le plan social, et on pourrait rapporter ici par exemple les innombrables description du paupérisme ou de la condition des classes populaires au XIXe siècle, et ce n'est pas seulement de pauvreté qu'il s'agit, et c'est tout autant d'indignité sociale. Hein, par exemple, le prolétaire, il n'est littéralement rien socialement parlant. C'est une sorte de non-valeur sociale qui n'a aucun droit, aucune dignité, aucune reconnaissance sociale. Et c'est plutôt un non-individu qu'un individu, si du moins, en tout cas, on se réfère à la conception de l'individu qui est inscrite au même moment, enfin, inscrite avant dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, ces non-individus, finalement, ont été sortis de leur indignité et ont été rapatriés, au fond, au sein de la société, ou plus exactement, d'ailleurs, de la nation, parce que ces opérations se sont déroulées dans un cadre national. Et pour le dire très vite, c'est en devenant propriétaire de droits qui découlent de leur appartenance à des collectifs qu'ils ont été en quelque sorte d'abord désindividualisés. Et je prends un exemple, l'ouvrier qui cherche à être embauché dans le cadre du contrat de travail qui s'impose après la Révolution, le contrat de louage de la force de travail tel qu'il est codifié dans le code napoléonien, par exemple, eh bien, c'est un individu face à son employeur qui est aussi un individu, et ce sont deux individus qui sont censés contracter librement. Mais l'ouvrier est tellement un individu qu'il se fait toujours avoir. Et face à un autre individu, son employeur, mais qui est beaucoup plus fort que lui, et qui a des réserves, et qui peut lui imposer unilatéralement ses conditions. Et c'est la racine de l'exploitation capitaliste, comme Marx l'a, me semble-t-il, bien montré, mais c'est pas d'ailleurs seulement Marx, j'allais dire, cette analyse du contrat libéral, cette critique du contrat libéral de travail que Marx et d'autres ont fait, me paraît irréfutable. Mais alors, si on prend la même situation, je pense, par exemple, 100 ans plus tard, d'un ouvrier qui va chercher à se faire employer dans une entreprise où il y a des conventions collectives, ben, ça n'est plus un individu tout seul, tout nu, si j'ose dire, qui vient frapper à la porte de l'entreprise, c'est-à-dire il peut prendre appui sur des conventions, c'est-à-dire des régulations qui ont été collectivement négociées ou imposées et qui ont force de loi. Et de sorte qu'on peut dire que c'est le collectif qui protège et qui donne un poids à l'individu, qui lui permet d'exister avec une certaine indépendance. Mais bon, cet exemple des conventions collectives que je prends n'est qu'un exemple. Régulation collective du droit du travail, hein, qui homogénéise le statut de grandes catégories de travailleurs, droit à la protection sociale qui est rattaché à ces statuts professionnels. Et d'ailleurs, coiffant au fond cet édifice, la juridiction de l'État, de ce qu'on appelle l'État social, parfois proprement à mon avis État-providence, et dont on pourrait dire que c'est le collectif des collectifs, et qui synchronise et qui donne force de loi à ces systèmes de régulation collective. Et donc, l'individu est ainsi doté d'un socle de ressources et de droits qui lui donne des conditions minimales de son indépendance économique et sociale. Je ne dirais pas, peut-être on pourrait traduire son autonomie, peut-être que le mot autonomie est un peu prétentieux, un petit peu philosophique, l'autonomie de la volonté, etc. Mais en termes de sociologie, je crois que au mieux parler justement de, pas d'une sorte, une possibilité d'une certaine indépendance sociale, c'est-à-dire être un individu, ça peut pouvoir développer des stratégies qui vous sont un petit peu propres, etc., ceci dans un système de contraintes de la société qui nous entoure. Et je crois qu'on pourrait prendre l'exemple du droit à la retraite, hein, parce que je pense que le droit à la retraite a été un élément fondamental de la constitution de ce type d'individu-là. Et bon, avant le droit à la retraite, c'est pas faire du mélodrame que de constater que la condition du vieux travailleur qui ne pouvait plus travailler était tout simplement épouvantable. Il est dans une dépendance totale et espérant éventuellement la charité d'un curé ou d'un philanthrope, une prise en charge aléatoire par ses enfants s'il en a, à moins qu'il n'aille finalement croupir et crever à l'hospice pour indigents. Bon, après le droit à la retraite, bon, ce vieux travailleur ne nagera pas dans l'opulence, mais il est censé avoir au moins justement ce minimum de ressources pour continuer à vivre par lui-même, avec justement ce minimum d'autonomie. Et ceci est un droit, hein, c'est-à-dire qu'il y a, il en a inconditionnellement le droit. Mais ce que je crois qu'on voudrait souligner, c'est que ce droit, on pourrait dire, c'est un droit personnel. Parce que, par exemple, le retraité dispose de sa pension en tant qu'individu et il peut en faire librement ce qu'il veut. Il peut faire, je ne sais pas s'il veut faire un cadeau à sa petite fille ou bien s'il préfère aller boire au bistrot avec ses copains. Bon, il a donc un droit dont il use personnellement et librement, mais ce droit n'est pas rattaché à des caractéristiques propres qu'il aurait en tant qu'individu. On s'en fout de ce qu'il est comme un individu. Son droit découle au contraire de son appartenance à une catégorie générale de salariés, et c'est cette appartenance collective et ça, les régulations collectives en termes de cotisation, d'âge légal de départ à la retraite, etc., qui lui donne ce droit. Enfin, c'est un point, bon, il me semble, enfin, en tout cas, nous y attachons une certaine importance, hein, que donc le retraité peut disposer librement de sa pension comme un individu singulier, et donc on peut dire c'est un individu. Mais le droit à cette pension passe d'abord par sa désindividualisation de ses caractéristiques propres. C'est le produit de ses appartenances collectives. Et ainsi, il y a une présence forte de l'individu dans la modernité organisée, c'est-à-dire que ces malheureux, ces misérables que j'ai évoqués tout à l'heure, ont été rapatriés au sein de la communauté, de la nation, et c'est d'ailleurs, bon, mais on ne va pas rentrer dans les détails, je crois que c'est la Troisième République qui, timidement, a commencé à mettre en place ces dispositifs, mais enfin, le point sur lequel donc, nous insistons, c'est que c'est cette consistance qu'a prise l'individu ne doit rien à des politiques de l'individu. Et au contraire, ce sont des politiques collectives qui passent par la désindividualisation, qui construisent ces droits et qui sont, au fond, comme l'ossature de cette conception de l'individu qui lui donne l'autonomie dont il dispose. Alors, j'ajoute qu'il y a quand même un paradoxe dans cette construction. Parce que Donc, comme je viens de le dire, et même d'insister un peu lourdement, un cet individu tire donc son indépendance, son autonomie de ces inscriptions collectives qui sont aussi en général des contraintes collectives. Et cette indépendance qu'il prend, qu'il a, suscite une volonté d'émancipation qui se retourne contre les conditions qui permettent cette relative autonomie. Et dans la modernité organisée, l'individu se met à ruer dans les brancards, si j'ose dire, c'est-à-dire à contester son encastrement dans ces collectifs dont il pense qu'ils le contraignent, qu'ils le briment, qu'ils le répriment, etc., alors que ce sont en même temps les conditions de sa liberté, c'est pour ça que je parle d'un paradoxe, et ainsi, à la fin de la trajectoire de cette modernité organisée, au moment où elle a pris sa plus grande consistance, c'est-à-dire dans les années 60, début des années 70, il y a en même temps comme une explosion de contestation, de révolte, qui remettent en question les structures de cette modernité organisée. Et d'ailleurs, on pourrait considérer que mai 68 a représenté comme ça une sorte de flambée, comme ça, de spectaculaire de ces revendications, mais au-delà, ou plutôt en dessous de ces événements, par exemple les événements de mai 68, il y a eu dans différents secteurs de la vie sociale des mouvements assez dynamiques quand même de contestation des structures de la modernité organisée au nom justement de l'émancipation de l'individu. Alors je ne vais pas en faire état ici pour illustration seulement dans l'ordre du travail. Se développe et particulièrement justement déjà dans les années 60, début 70, une contestation assez profonde des formes d'organisation dominante du travail, de la rigidité des structures et des hiérarchies professionnelles, par exemple la thématique de l'autogestion, par exemple, qui se développe dans ces années-là, d'ailleurs avant de s'écrouler un petit peu plus tard, et plus généralement, c'est tout l'éventail de ce qu'on appelait à l'époque les luttes anti-institutionnelles, c'est-à-dire différentes formes de contestation des institutions, des autorités, des pouvoirs, du rôle répressif de l'État, la dénonciation du contrôle social, etc. Et au fond, on pourrait dire qu'il y a eu d'abord une sorte de crise interne de la modernité organisée, avant même d'ailleurs que ces structures ne soient attaquées de front par la crise à proprement parler, alors telle qu'on a commencé à en parler au début des années 70. Bon, on n'a pas tout de suite compris que c'était assez grave, on attendait la reprise, etc. Et puis On sait, enfin maintenant en tout cas les gens qui ne sont pas trop bêtes se rendent bien compte que c'est un changement de régime du capitalisme auquel nous avons assisté ces années-là et dans lesquelles nous sommes ensemble encore, bon, c'est-à-dire la sortie du capitalisme industriel dont au fond la modernité organisée avait été la grande synthèse. Parce que réalisant enfin, ce qu'on a appelé le compromis social du capitalisme industriel, bon, c'est-à-dire une certaine forme d'équilibre, un peu boiteux, machin, mais quand même entre, pour dire les choses très vite, les intérêts du marché, du capital, la compétence, la compétitivité, etc. Et d'autre part, justement, ces structures de protection collective donnant une certaine sécurité, une sécurité sociale qui d'ailleurs se généralise même au-delà du monde du travail. Et alors, bon, je vais bientôt m'arrêter, mais je crois pour la suite, puisque là j'ai un peu résumé bon, un peu ce qu'on essaiera de dire dans, dans ce premier chapitre, pour la suite, au fond, on peut dire qu'il y a, à partir de cette interprétation de la modernité organisée, il y a deux mouvements qui se dessinent. Il y a la récupération, encore que c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais enfin, disons quand même la récupération dans la société telle qu'elle se transforme actuellement, hein, d'une conception de l'individu qui avait commencé à mûrir, mais d'une manière souterraine, dans la modernité organisée. Et je pense par exemple au livre de Luc Boltanski et de F. Chiapello, là, le nouvel esprit du capitalisme, qui montre, me semble-t-il, d'une manière assez convaincante, hein, la récupération de ce qu'ils appellent la critique artiste, hein, mais qui est en fait une certaine conception de l'émancipation et de la promotion de l'individu. Et bon, eh bien, cette forme de contestation de la modernité organisée va par exemple inspirer les techniques de management au sein des entreprises et prendre de plus en plus de poids et peut-être finalement déboucher sur cette conception néolibérale de l'individu comme entrepreneur de lui-même. Hein, qui est, et donc, on pourrait partiellement, effectivement, interpréter comme le prolongement de ce mouvement que je dessine. Mais je crois qu'il y a, un deuxième mouvement, hein, c'est-à-dire que, alors, cette crise, entre guillemets, s'installe dans les années à partir début, et puis progressivement de plus en plus les années 70, les années 80, bon, avec le chômage, la précarité et une dynamique de décollectivisation et de fragmentation sociale qui joue beaucoup sur le plan du travail. Bon, là, on pourrait en parler longtemps, mais je crois quand même, justement, cette décollectivisation de l'organisation du travail, c'est un phénomène assez massif. Bon, et avec les conséquences en termes de précarité, de chômage, etc., fait surgir de nouvelles catégories d'individus, hein, qui ne sont plus inscrits dans les systèmes de protection collective, ou très peu, hein, par exemple, je ne sais pas, les chômeurs de longue durée, ou bien les jeunes, qui, surtout s'ils sont mal formés, hein, ils ne trouvent pas de boulot, qui galèrent, etc. Non, il y a comme ça des groupes particuliers d'individus, on pourrait dire, en déficit par rapport aux formes de protection collective qui donnaient sa densité à l'individu dans la modernité organisée et qui sont des individus donc fragiles, vulnérables, qui manquent de consistance sociale. Et alors, je crois qu'on pourrait interpréter des politiques de l'individu cette fois, c'est-à-dire bon, des politiques qui vont cibler ces catégories de l'individu et travailler sur eux. Et alors ce serait le passage au chapitre suivant, et ici pour l'occurrence peut-être à Denis, je vais vous parler un petit peu de ça, mais enfin certaines de ces nouvelles politiques de l'individu. Et l'idée, enfin bon, évidemment, je crois qu'on est ici pour discuter. Et d'autre part, bon, ce que je dis peut peut-être avoir à vos yeux un caractère trop paradoxal, mais enfin, je pense que ce serait intéressant de discuter ce point. Enfin, c'est-à-dire que hein, l'individu a été très fort, et peut-être plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui, quand il n'y avait pas de politique de l'individu. Et au contraire, bon, pour résumer un peu caricaturellement ce que j'ai essayé de dire.
Merci Robert. Oui, effectivement, donc pour nous, cette hypothèse vers l'arrière de l'existence d'un individualisme avant même l'ère, disons, des l'émergence des politiques de l'individu que nous allons situer beaucoup plus tard, à partir des années 90, fondamentalement, est pour nous très importante parce que, comme Robert l'a bien expliqué, il y a, sociologiquement parlant, pas en tant qu'en termes d'idéologie, il y a un premier individualisme qui émerge au moment où, justement, le monde social et le monde économique apparaît comme très fortement régulé et contraint par des régulations diverses, dont Robert vient de faire une synthèse. Je voudrais, on a décidé de parler d'un deuxième aspect qui est aussi central pour nous, qui consiste à caractériser justement ou essayer de le faire dans des grands traits ce que nous appelons les politiques de l'individu ou à quoi nous faisons référence ou quel est l'objet central de notre travail. La première, une première chose à dire avant de définir ou d'essayer de dessiner les principaux traits, c'est que ce que nous appelons comme étant des politiques de l'individu n'est pas un groupe ou une constellation, un faisceau de politiques précises, un groupe de politiques déterminées. Par exemple, ce n'est pas une nouvelle forme de nommer les politiques sociales que nous proposons. Ce sur quoi nous parlons, c'est plutôt d'une réorientation profonde, sans exagérer, mais disons de quelque chose qui propose ou qui vise ou qui prétend une réorientation profonde du rapport entre l'État et la société. Il est vrai que les politiques sociales sont en première ligne concernées par ce changement et qu'il est assez facile de voir dans le domaine des politiques sociales, dans l'univers des politiques sociales, des exemples très parlants de ce que nous allons décrire. Mais nous pensons que les politiques, ce que nous appelons les politiques de l'individu, débordent largement le cadre du traitement du social, débordent largement cet univers. Il y a deux caractéristiques principales ou de coordonnées qui permettent de comprendre qu'est-ce qu'une politique de l'individu. C'est sur quoi je vais essayer de parler. La première d'entre elles, c'est que la mise en place de ces politiques, ou de ces orientations plus précisément, va opérer un détachement dans la conception de l'individu. Un changement dans la conception de l'individu qui a prévalu pendant la période de la modernité organisée. C'est-à-dire que ces politiques vont redéfinir ce que c'est que l'individu. Ce ne sera plus du même individu dont on parle, et on pourrait même dire, sans exagérer peut-être, que ce n'est pas du même individualisme dont il est question, par exemple au milieu de ces années 60, quand on parlait de la société des masses ou de la société de consommation, et celui dont on parle aujourd'hui. Deuxième coordonnée, c'est que ces orientations, ces politiques de l'individu se projettent, semble-t-il, en continuité avec l'esprit des politiques sociales classiques, telles qu'elles existaient dans l'époque de la modernité organisée pour donner un repère clair. C'est-à-dire des politiques sociales classiques, dans sa forme professionnalisée, telle qu'elle a été décrite entre autres par Robert par beaucoup d'autres, à partir d'une forme d'intervention sociale qui se faisait à partir d'une intervention sur autrui, qui visait l'autre personne, basée sur une relation de dyade, d'écoute et de réparation, hein, caractéristique de ce que Goffman appelait une relation de service. Hein. On peut dire, à partir de ces deux généralités, que les politiques de l'individu vont avoir une cible spécifique et elles vont avoir des techniques d'intervention ou des modes d'action aussi définis. D'abord, quelle est la cible des politiques de l'individu? C'est l'individu lui-même. Et ça, c'est une différence radicale par rapport à ce qui était caractéristique des politiques de la modernité organisée. Comme ça vient d'être dit, dans cette période du XXe siècle, si on prend par exemple le modèle de la protection sociale, on peut dire que ces politiques ciblent des dynamiques sociales qui représentent un danger pour l'intégrité ou pour l'autonomie des individus, mais elles ne ciblent pas les individus eux-mêmes. Tandis que dans la période à laquelle nous sommes, les politiques de l'individu ciblent l'individu en tant que tel, en tant que personne singulière, dans ses caractéristiques personnelles. À la période, disons, pour aller vite, de la protection sociale, ou dans l'esprit de la protection sociale, si on veut, dans l'orientation des protections sociales, l'État cherche à institutionnaliser des régulations sociales, le temps de travail, par exemple, ou le respect de la sphère privée, et à instituer des protections, comme ça vient d'être décrit, dont l'exemple le plus général, c'est celui de la sécurité sociale. L'objet est alors la production d'un ordre social d'où se dégagent des marges de liberté individuelle et d'indépendance sociale pour l'ensemble des individus. On peut dire que chacun dispose de portions de temps où, par exemple, le maintien de son revenu, même lorsque la personne ne travaille pas, hein, et que ces disponibilités du temps et des ressources ont produit comme effet l'émergence de l'individualisme. C'est l'histoire du XXe siècle, telle qu'elle vient d'être rappelée, qui rend possible l'émergence des formes individualisées de l'expérience sociale. En revanche, et je répète ce qui vient d'être dit pour pouvoir dire ce que j'ai à dire, les politiques de l'individu, en ciblant l'individu en tant que tel, vont redéfinir l'individu lui-même et produisent une autre conception du sujet individuel. On peut dire qu'avant, l'individu est conçu exclusivement en termes de liberté individuelle, qu'il faut protéger, hein, son espace. Mais c'est à lui de définir le sens de son expérience. Tandis que, à l'époque des politiques de l'individu, la conception de l'individu qui va prévaloir, c'est... compréhensible, on peut l'identifier autour du concept d'entrepreneur. C'est l'idée d'entrepreneur qui va servir de modèle aux politiques de l'individu. Alors, comment est définie plus précisément la cible des politiques de l'individu? Il y a, si je peux dire, dans un premier temps, la définition de catégories d'individus qui appellent à des interventions ou à des traitements spéciaux. Ce sont des individus à problème, comme ils sont définis dans les politiques sociales classiques. Ces catégories viennent définir des individus à problème. Et les interventions, les politiques de l'individu, vont essayer de le remettre en condition... ou de le réarmer. Mais les politiques de l'individu, là, vont approcher leur public de façon individualisée. Ils vont cibler chaque individu dans sa situation et dans son histoire personnelle. Les politiques de l'individu ciblent des sujets individuels, des personnes, à partir d'une définition au préalable des situations ou des catégories d'intervention. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va, par exemple, demander à la personne de raconter sa vie, hein, ces fameuses injonctions biographiques. Ce qui va se passer, c'est que dans un deuxième temps, ce mode d'intervention va complètement déborder le cadre des politiques sociales classiques. Alors, comment définir de manière plus générale la cible des politiques d'individus si on déconsort du domaine du social ? On peut dire, il me semble, que les politiques d'individu s'adressent à tous ceux qui ratent leur performance sociale. Autrement dit, les perdants. La vie sociale est conçue comme un jeu de concurrence généralisée et des luttes indéterminées. Et rate sa performance tout individu qui, comme conséquence de sa participation à ces jeux et à ces luttes, a besoin d'aide. C'est-à-dire, il y a une définition pragmatique du public. Fait appel à une politique de l'individu, toute personne qui se trouve en situation de dépendance ou désavantagée, qui ne peut plus se débrouiller tout seul. Peuvent être visés par des politiques de l'individu tous ceux qui, déstabilisés, ont besoin d'aide pour se remettre en selle et reprendre le combat. Mais quelle est la cause de l'échec? Qu'est-ce qui a fait tomber l'individu? Les causes de ces échecs sont conçues comme indéterminées. Elles peuvent être multiples, hétérogènes, et donc, en conséquence, elles ne sont pas anticipables. On ne peut pas les prévoir. C'est le cadre de la société du risque. Le risque est généralisé, il se trouve partout et c'est normal que des uns et des autres tombent. In fine, les causes de l'échec, du fait de rater sa performance sociale, ne peuvent être connues que dans le parcours de chaque individu. Ces situations singulières se trouvent toujours regroupées dans des catégories. Par exemple, les chômeurs seront une cible des politiques de l'individu, ceux qui ne trouvent pas de travail. Mais la raison par laquelle chaque individu se trouve chômeur est à chercher dans l'histoire personnelle de l'individu et pas dans une dynamique sociale sur laquelle il faudrait intervenir. Donc il faut intervenir sur l'individu. Et plus important encore, l'issue à la difficulté ne peut être qu'individuelle. C'est-à-dire, l'individu est appelé à faire un projet, à chercher des ressources pour s'en sortir. C'est en cela que le changement est radical. La cible d'une politique de l'individu n'est pas ou n'est plus le chômage, mais le chômeur, ou les chômeurs, pris un à un. La politique de l'individu, on va le voir tout de suite, va définir donc des dispositifs, des prises en charge et d'accompagnement individualisés afin que la personne retrouve par elle-même le chemin de l'emploi. Cette idée générale, ou cette philosophie, cette idéologie, j'ai envie de dire, moi volontiers j'appelle ça une idéologie, qui va appeler à ces termes qu'on connaît de la responsabilisation et de l'activation, qui vont être les deux modes principaux d'orientation des politiques de l'individu, est un changement radical quand on pense, par exemple, comment l'assurance chômage a été conçue. C'est la conjoncture économique qu'il faut protéger les travailleurs Et c'est pourquoi on pense que dans des conjonctures de dépression, hein, tout le monde ne peut pas trouver un travail, donc il faut instituer une protection sociale. Quoi que l'individu il en fasse, il n'y aura pas de travail pour tout le monde, donc il faut couvrir ces moments de perte de main-d'œuvre ou de perte de poste de travail pour protéger les individus. Ici, on est dans une situation complètement différente, dans un raisonnement qui est à l'opposé, hein, pour traiter le même problème. Donc, dans le cadre des politiques de l'individu, sont redéfinies les causes des problèmes sociaux, les effets des problèmes sociaux et les solutions possibles. Les trois termes. Plus généralement, donc, les politiques de l'individu ne ciblent pas seulement les individus à problème. François Dubé, par exemple, parle de changements dans le programme de beaucoup d'institutions, comme l'école, dont l'objet est davantage la production d'individus en soi, et non plus l'intégration sociale des personnes. L'objet avant, c'était de rendre les personnes aptes à leur participation à la vie sociale, en tant qu'individus, bien sûr, et aussi à réguler les conflits et les rapports sociaux afin de rendre le jeu social moins dangereux. C'est-à-dire, la cible était les dynamiques sociales, les rapports sociaux. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les interventions sur autrui est généralisé, et l'objectif, quand il est bien intentionné, semble être plutôt d'armer les individus pour participer à un jeu social, mais il n'y a plus de place dans laquelle on intégrerait les individus, parce que dans le contexte ou dans le cadre des politiques de l'individu, l'idée des sociétés elle-même disparaît, elle se dissout. Il y a des individus. Deuxième volet, je me rends compte que je ne maîtrise pas mon temps, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Comment les politiques d'individus se présentent en changement aussi par rapport aux modes d'intervention ou aux technologies qu'elles vont mettre en œuvre. Comme je l'ai dit, dans une certaine mesure, elles vont prolonger le mode d'action typique du travail social. Surtout dans ce fait qu'ils mettent en rapport deux personnes, deux individus, hein, et dont la cible, c'est la singularité de l'un des deux. Mais, à regarder de plus près, dans sa logique fondamentale, on peut dire très rapidement que les politiques de l'individu diffèrent beaucoup des dispositifs sociaux classiques. Le travail social classique identifie au niveau du problème, du diagnostic, si on peut dire, un manque ou un dysfonctionnement, par exemple l'alcoolisme de quelqu'un qui lui empêche de mener une vie familiale convenable ou de se rendre au travail et de travailler tous les jours. Dans sa méthode, il y a un schéma de réparation, hein, qui est souvent sous un modèle tutélaire, qui vient donc combler ou réparer ce dysfonctionnement, et le but est la réintégration de l'individu dans la société. Dans les politiques de l'individu, le but, l'objectif est complètement différent. Premièrement, parce que les politiques de l'individu ne présupposent pas l'existence d'une société, à proprement parler, à laquelle ou dans laquelle on pourrait replacer les individus qui ont dérapé ou qui se sont égarés. L'idée d'intégration est étrangère aux politiques de l'individu. Le but d'une politique de l'individu est d'armer ou d'avitailler les individus en vue de mieux les préparer au combat qu'ils devront affronter. Un exemple, c'est celui ce qui est derrière l'idée d'empowerment. Hein? Ou, d'une façon plus prosaïque, par exemple, un autre exemple, c'est celui de la formation. Il faut former les gens. formation est une politique d'individu. Mais chaque individu est censé savoir qu'il pourra à tout moment être déstabilisé par un autre ou par une conjoncture. C'est la nature du jeu social qui produit des gagnants et des perdants. Au niveau de la méthode, chacun doit suivre un projet et être prêt au changement, à la mobilité, se rendre mobile. C'est-à-dire l'individu qui est ciblé ici ne s'engage pas dans le monde sous le modèle d'une participation à la vie sociale, dans le sens de la participation ou de la production du bien commun ou de la richesse, qui est dans le droit à avoir de droit. Il s'engage dans une prise de risque permanente et généralisée, d'où il sortira gagnant ou perdant. Au niveau de la méthode, et je suis près de la fin, il y a dans les politiques de l'individu une mise en question assez forte du modèle tutélaire de la politique sociale classique. C'est-à-dire, on va chercher à sortir du modèle du contrôle social exercé sur le bénéficiaire, comme ça a été décrit par exemple par Jacques Donzello à l'époque de la police des familles, disons. Les nouvelles technologies mises en place visent l'autonomie et donc l'activation de l'individu. Des termes tels que l'accompagnement, l'aide personnalisée, l'orientation du bénéficiaire, le coach, le coaching, la formation, la proximité. Ce sont toutes, en dernière instance, des techniques de l'activation qui vont avoir des fortes injonctions à la mobilisation et un modèle de coprésence qui se substitue à la fois au contrôle social et au modèle tutélaire. Les individus ne sont plus considérés comme une figure abstraite, mais en tant que personne singulière, dans la singularité de leur situation, de ses capacités à la Amartya Sen, ou de leur histoire. Le contrôle social, parce qu'il y a bien du contrôle social là-dedans, ses limites, si on peut dire, au contrôle, à une surveillance d'une permanente mobilisation de l'individu, dans le but qu'ils s'en sortent. La surveillance est une surveillance du fait de rester actif. L'individu doit rester actif. Ce que, et je finirai par là, il me semble, la politique de l'individu combat avec la plus grande force, c'est la fainéantise. Et ce qu'elle craint le plus, c'est que quelqu'un puisse vivre sur le dos des autres ou sur l'argent public. C'est pour ça que cette diade, ce double schéma souvent décrit insiste beaucoup sur la responsabilisation et sur l'activation qui vont être au fond les deux grands normes des politiques de l'individu. Voilà.
Alors, pour c'est pas un troisième chapitre, c'est plutôt ce que vous avez bien compris, il n'est pas écrit, mais c'est plutôt des à la fois comment on peut décliner ces politiques de l'individu à partir de nos compétences, parce que vous l'avez compris, ce modèle-là ne se résume pas aux politiques sociales. Denis a parlé de l'école, on peut parler d'entreprise, etc. Au demeurant, donc c'est des questions qu'on se pose, y compris dans la façon d'étayer ce modèle des politiques de l'individu à partir justement d'études plus précises. Et bon, je vais essayer d'en évoquer, mais très très rapidement, parce que je pense que l'intérêt c'est de discuter de ces questions-là. C'est autour des politiques d'insertion, et notamment la question du RMI et du RSA, qui me semble être une illustration assez assez intéressante de ces politiques de l'individu. Et un autre élément qui est plus un élément de discussion, c'est comment les débats autour de la solidarité, des interventions pour autrui, etc., eh bien, assez récemment se sont enrichis de certaines approches, telles que les approches du CARE. Et est-ce que ces approches du CARE correspondent à ces politiques de l'individu? Est-ce que les étayent, etc.? Donc voilà deux éléments que je voudrais apporter de discussion très rapidement. La question et aussi pour insister sur ce qu'on l'a, Robert l'a abordé, Denis aussi, c'est cette question des ambivalences de ces politiques de l'individu, parce que évidemment on peut en avoir une dimension descriptive, hein, pour, de voir comment ce rapport entre l'État et la société il évolue. Mais en même temps, évidemment, on a c'est une dimension normative qui nous incombe, et là-dessus, il me semble qu'on doit aussi insister sur les ambivalences de ces politiques de l'individu, hein, par rapport justement à la manière dont elles peuvent être, lorsque on peut le voir, quand elle s'applique à des politiques telles que le RMI, le passage au RSA, etc., à la manière dont on demande toujours beaucoup et beaucoup plus à ceux qui ont moins les moyens, justement, de se poser et d'être entrepreneurs de leur propre vie. Donc il y a cette dimension de la responsabilisation qui se transforme très souvent en forme de culpabilisation. Donc cette critique-là, on la connaît. Et en même temps, on peut aussi appréhender à partir d'une vraie critique de la société salariale, de la manière dont les collectifs et les prises en charge des protections et de l'aide à ceux qui étaient dans le besoin, dans la pauvreté, etc., participaient et ne faisaient que renouveler, voire même certaines disparités où on pense, par exemple, à la manière dont l'État social, dans sa façon de s'adosser à un ordre du genre et à des inégalités, ne peut que répercuter et reproduire ces inégalités. Donc on peut voir à travers là que c'est justement des évolutions en termes de politique de l'individu peuvent être à même aussi d'aller à l'encontre, hein, répondre à des critiques justement d'une approche globale, d'une approche par les collectifs qui ne correspondait pas forcément aux particularités, hein, et donc c'est un débat assez classique, mais il convient justement d'insister avant que je rentre là-dedans sur ces ambivalences, hein, et on est l'objectif est évidemment de mettre en scène aussi ces ambivalences d'un point de vue normatif. Alors pour ce qui est du revenu minimum, qu'on se rappelle le contexte dans la façon dont à la fin des années 80 le revenu minimum est apparu et les débats qui ont prévalu à l'origine pouvait d'une certaine façon sur certaines perspectives de revenu minimum universel, etc., pouvait participer justement résister à cette évolution des politiques de l'individu. On peut les politiques d'insertion qui sont mises en œuvre à partir dans les années 80 autour de la politique de la ville ou des choses comme ça pouvaient rester dans des perspectives d'appréhension des collectifs, les politiques de quartier, de territorialisation, etc., pouvaient rester dans ces logiques collectives. Je vais aller vite et du coup aller schématiquement. Or, au fur et à mesure d'une une évolution qui est aussi une évolution des politiques, disons, du travail social et des politiques sociales. On a vu à l'œuvre au fur et à mesure ce que Denis a évoqué de façon assez générale et qui pour le revenu minimum et ce qui s'est traduit par le passage au revenu de solidarité active, donc la mise en œuvre justement d'une logique d'activation qui entérine une logique de la contrepartie, c'est-à-dire le fait que ce sont les individus. Alors évidemment, les débats autour du contrat d'insertion tel qu'il était dans les années 80 étaient déjà à l'œuvre, étaient déjà les prémices de cette logique justement d'activation, cette logique de la contrepartie, mais qui s'est largement développée et mise en œuvre avec le RSA. Plus généralement, Denis l'a dit, à la fois des logiques de contrepartie et des logiques de transformation des usagers quant à la manière de répondre non plus dans une logique de droit, mais être, disons, pour aller vite dans le modèle, de passage d'une logique de droit à une logique de besoin. Or, qui dit une logique de besoin, implique justement de centrer sur l'individu et la façon dont il est à même de présenter les besoins, présenter ce dont il a besoin, présenter donc son histoire, et donc ça renvoie à toute l'injonction biographique qui amène à faire en sorte qu'il est amené à déposer une histoire passée, et déposer l'état dans lequel il est pour composer ce fameux projet, donc toute cette société qui fonctionne par le projet et qui se traduit, se décline très très fortement dans le travail social, mais c'est loin d'être le seul secteur qui est confronté à cette logique. Donc être entrepreneur de soi-même, ce qui amène à une logique disons assez pragmatique de l'accompagnement, c'est-à-dire que et d'une évolution du travail social dans ce cadre-là, qui se transforme, disons, d'une relation d'aide à une aide à la relation. C'est-à-dire que ce qui incombe à l'État à travers ses travailleurs sociaux et ceux qui interviennent auprès de ceux qui sont dans le besoin, eh bien, c'est de faire en sorte qu'ils soient dans la relation, et c'est dans la relation que se définissent le fameux projet, se définissent les compétences à être le propre entrepreneur de soi-même, hein, c'est-à-dire d'être à même de pouvoir se bouger, hein, donc la fameuse logique de l'activation. J'essaie d'aller un petit peu vite, mais enfin, donc toute cette centrée autour de la relation. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, justement, tout le travail social, toute cette dimension autour de la relation, elle n'est pas nouvelle. Mais comme l'a dit Denis, ce qui se passe dans leur relation, il est bien dans la manière dont la logique normative et le modèle tutélaire qui était dans le registre des politiques éducatives, par exemple, dans la manière dont les éducateurs auxiliaires de justice, par rapport au modèle de la justice des mineurs, pour accompagner des jeunes qui n'étaient plus tout à fait dans le droit chemin, eh bien, étaient dans, certes, une relation, mais avec une perspective qui était l'idée d'un programme, tel que un programme au sens une remise dans le droit chemin. Donc, or, c'est bien cette perspective normative qui est loin d'être dans le cadre des politiques de l'individu, est loin d'être acquise, puisque on est plutôt dans un registre où justement c'est à l'individu de définir ses propres perspectives. Les travailleurs sociaux qui sont amenés à l'accompagner ne sont pas là forcément pour lui donner les clés, ne sont pas là forcément pour lui donner le modèle, mais sont là pour l'aider à être dans cette relation. La relation devient l'objectif même, hein, et reste à l'individu qui, dès lors qu'il est dans cette relation, dans cette logique de la relation, eh bien, à se trouver les perspectives qu'il peut. Et là, évidemment, c'est là où la dimension critique que l'on peut avoir par rapport à cette logique est très très forte. Alors, deuxième élément de discussion, parce qu'on pourrait évidemment à partir d'exemples plus précis, que ce soit sur le RMI, que ce soit sur les logiques du travail social dans le cadre de la justice des mineurs ou dans d'autres cas, on pourrait un petit peu aller plus dans le détail, dans la manière dont ça se met en place, dans la façon dont le travail social évolue et dans la façon dont évidemment on n'est pas forcément dans une où on peut mettre aussi en évidence un certain nombre d'ambivalences par rapport à ça. Deuxième aspect que je mets vraiment à la discussion, et évidemment trop rapidement, mais c'est par rapport à la façon dont justement ces politiques de l'individu avec cette logique de la relation, une des caractéristiques, c'est cette logique de la proximité, évidemment, hein, qui fait en sorte que on n'est plus forcément dans des logiques de droit, mais on est plutôt dans des logiques de besoin qui induit la manière dont c'est dans la relation même que se définissent de façon pragmatique et sans forcément programme défini à l'avance. C'est réparation. Hein, mais les réparations sont à mener par l'individu lui-même. Ce qui lui est donné, c'est des modalités plus qu'un modèle. Je voudrais les ramener là dans les dernières minutes qui me restent à la manière dont aujourd'hui dans les débats sur les interventions sur autrui, pour autrui, auprès d'autrui, dans les débats sur la solidarité, la manière dont les problématiques du CAIR, les perspectives et les approches, voire les politiques du CAIR sont apparues, elles peuvent être justement adaptées dans la dimension d'analyse, de description de ces politiques de l'individu, mais en quoi aussi elles peuvent être l'objet de controverses dans la dimension normative, hein, par rapport à l'analyse qu'on peut avoir de ces politiques. Alors l'on parle avant même très rapidement, et c'est pas en 5 minutes que je vais pouvoir avancer une discussion vraiment très très étayée et argumentée autour de l'articulation entre ces problématiques du CAIR et ces politiques de l'individu, mais dans les dimensions justement où on n'est plus forcément dans une logique de droit qui correspond, mais des logiques de besoin, dans une dimension où on est amené à être dans les dimensions assez pragmatiques et concrètes du concernement, hein, qui fait amener que dans les situations qui sont présentées, justifier d'une aide, en tout cas d'un besoin d'intervention de la part d'une personne, d'un professionnel, d'une association, de l'État, etc., cette logique amène évidemment à prendre en compte les dimensions évidemment matérielles qui sont à la logique de quoi j'ai besoin, mais aussi des dimensions morales, hein, donc c'est ce fameux couplage à la fois de la sollicitude et des pratiques et des activités très très concrètes en réponse aux besoins, hein, qui amène un des socles des perspectives autour du Caire, et une des dimensions qui est importante par rapport au débat, c'est évidemment qu'elle renvoie le plus souvent à une dimension dyadique, hein, le modèle dyadique du face-à-face, hein, et de quels sont les conflits moraux qui peuvent être amenés, les dimensions évidemment matérielles, mais aussi les dimensions morales, affectives, etc., qui débordent largement les protocoles, y compris dans la perspective les plus professionnalisées du métier d'assistante sociale, par exemple, etc., qui intéressent. Alors, par rapport à ça, il y a une autre. Bon, il y a donc jusqu'à quel point toutes les analyses autour du Caire se réduisent ou pas à la dimension dyadique. Il me semble que on n'est pas forcément dans une réduction, ou pour le dire très crûment, on n'est pas forcément, quand on s'intéresse au Caire pour apporter de l'eau au moulin au débat sur la solidarité, on n'est pas forcément dans une logique de la privatisation, on n'est pas forcément dans une logique de l'interaction entre deux personnes, un usager et un professionnel, par exemple, ou un travailleur social. Ce qui me fait dire ça très largement, c'est justement la façon dont il faut appréhender cela, et c'est peut-être une des perspectives qui nous permettent justement de reposer la question du collectif. C'est justement la façon dont prise en compte des besoins et la manière dont il y est répondu doivent être, dans, en tout cas dans bon nombre d'approches qui mobilisent les problématiques du Caire, comme un processus qui va de justement la manière dont les besoins sont pris en compte jusqu'à la manière très très concrète qu'ils sont pris en charge, avec tous les débats évidemment sur qui fait quoi, et notamment le fait de la division sexuée du travail de care, hein, donc qui est un des éléments et qui n'est pas le plus négligeable. Mais dans cette prise en compte du processus à quel moment justement on prend en compte des besoins, jusqu'à la manière dont ils sont pris en charge et la manière dont ils sont réceptionnés, eh bien il me semble que cette façon de mobiliser les études du Caire peuvent justement nous permettre de reposer une dimension collective qui n'invalide pas évidemment toute la logique des politiques de l'individu, mais en même temps qui permet de penser qu'on reste dans une logique sociale de cette prise en compte des besoins. Un autre élément de débat qui me semble être intéressant avec autour des problématiques du Caire par rapport à ces logiques de l'individu, c'est cette dimension de
de la temporalité, comme notamment à la façon dont on a souvent l'impression de réduire les problématiques du Caire à une relation dyadique entre un bénéficiaire quelqu'un qui exprime des besoins et quelqu'un qui peut y répondre. Donc j'ai montré en quoi évidemment une démarche processuelle et dynamique et temporelle, pour aller vite, du processus de CARE permet justement d'aller au-delà de cette relation dyadique. L'autre aspect, c'est jusqu'à quel point cette perspective reste dans une logique du présent. Jusqu'à quel point les perspectives du tiers permettent ou pas de penser des interventions qui ne soient pas simplement des interventions qui s'effectuent dans le présent de la situation, et qui vont donc à l'inverse d'une logique qui était celle, par exemple, de la société salariale, hein, où on avait bien, avec une logique de l'assurance, quelque chose qui était de l'ordre de la temporalisation, c'est-à-dire la manière dont étaient pris en charge des besoins au présent à partir d'une perspective globale, collective, qui renvoyait à la manière dont la logique de l'assurance s'inscrivait dans une logique de la temporalisation. Et il me semble ça reste un enjeu, y compris dans le cadre des politiques de l'individu. Bon, voilà quelques éléments de discussion qu'on a on souhaite, à partir du modèle que Robert et Denis ont développé, qu'on a envie de discuter, et notamment de discuter avec vous, mais ce n'est pas seulement ces éléments-là, c'est aussi tout ce que Robert et Denis ont pu développer. Merci.
Bien. Merci Robert, Denis et Marc. Écoutez, je crois que c'est une contribution très intéressante à notre réflexion sur subjectivation, d'autant plus que vous avez utilisé ici le mot d'individu et non pas celui de sujet, et je pense qu'on aura sans doute à revenir à ce choix que vous faites du terme individu. Et alors voilà, donc je suggère que si quelqu'un a quelque chose à dire, à intervenir, voilà. Donc, allez-y.
Ben, je veux bien commencer, du coup, je vous remercie aussi. Du coup, ce sera moins une question qu'une suggestion. J'ai remarqué aussi que vous avez beaucoup parlé de politique de l'individu et d'individu, mais très peu d'individualisme et pas du tout d'individuation. Et du coup, je voulais vous demander si vous seriez d'accord pour complexifier un petit peu votre modèle en introduisant ces deux catégories d'individualisme et d'individuation, au sens où on pourrait dire que dans les années 1960, et à la fin surtout des années 1960, début des années 70, on est en présence d'un fort individualisme qui va laisser place progressivement, et surtout au cours des années 90, à un processus d'individuation. Et donc j'explique rapidement ce que j'entends par individualisme et individuation, et je donne un exemple ensuite pour illustrer ça. Individualisme, il faudrait prendre dans un sens clairement positif, en l'entendant donc comme émancipation des individus ou des sujets vis-à-vis des multiples formes d'autorité que sont l'université, la famille, le patron. Et par contre, individuation, il faudrait le prendre dans un sens négatif, comme ceux qui cassent le collectif ou comme ceux qui se saisissent des individus pour les soumettre à un contrôle moral. Et donc pour illustrer ça, je prends la question notamment de l'IVG et de l'avortement, où donc on remarque que fin des années 60, début des années 70, on a le manifeste des 343 salopes qui finalement aboutit à la loi Veil. Ça, ce serait donc ce que je caractériserais par une dynamique individualiste. Et en revanche, depuis les années 90, on serait dans un processus d'individuation avec ce que vous avez évoqué, l'injonction biographique, et donc l'État qui, à travers les médecins, exige des patientes qu'elles produisent un discours mesuré à l'aune du discours légitime attendu par les experts.
Merci.
Au boulot.
Bon, alors je réponds pour dire que je ne suis pas capable de répondre. C'est après que mon collègue. Non, mais je comprends bien votre remarque et c'est intéressant. Mais alors, je ne sais pas d'ailleurs si là-dessus on sera complètement unanime, mais moi, je pense déjà la notion d'individu, elle est un peu complexe. Hein, parce que justement, bon, c'est à la fois un mot fourre-tout, etc. Bon, on essaye de lui donner un contenu un peu précis à travers justement bon, son instrumentalisation politique dans les politiques d'individus. Il y a derrière ça, je crois, il y a une, je voudrais pas dire une théorie, mais enfin une entrée sociologique sur l'individu qui est de considérer que, enfin justement, l'individu en société a besoin justement de support. C'est d'ailleurs pourquoi aussi, en tout cas moi personnellement, j'emploie jamais le terme de sujet. C'est pas seulement parce que je suis pas tourénien, mais je pense qu'effectivement là il y a le risque, enfin justement une dérive de subjectivité. C'est un parti pris, à mon avis, non sociologique sur ce qu'est l'individu. Mais alors par rapport à ce que vous dites, autant par exemple, je vais m'exprimer avec une extrême brutalité pour faire réagir, de mettre à la poubelle la notion de sujet, mais pas du tout, justement, et je crois la distinction que vous faites, elle est très intéressante, elle mériterait d'être élaborée, creusée, etc. Mais alors je ne sais pas si elle entre, enfin si on peut la prendre en charge, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, très rapidement. Puis après, je pense que derrière les formulations que vous suggérez, on est typiquement dans les ambivalences que l'on a essayé de souligner les uns les autres par rapport à ces logiques des politiques de l'individu. Alors, qui dit ambivalence veut aussi dire que ces mouvements contradictoires s'expriment aussi non pas l'un puis l'autre. Peut-être faudrait-il, par rapport au modèle que vous développez, introduire le fait que individualisme et individuation se retrouvent, et en l'occurrence par rapport à la question de l'IVG et de l'histoire que vous proposez, évidemment qui dit ambivalence, qui dit qu'à des moments donnés on est plutôt vers le curseur et plutôt vers quelque chose où les logiques d'émancipation sont à l'œuvre, alors que d'autres aspects ces questions-là, ces questions d'ambivalence se retrouvent dans la façon dont sur d'autres on évoquait les logiques, la question du contrôle du contrôle social versus d'autres d'autres types d'émancipation, mais voire même de protection à des moments donnés, quoi. La justice sociale, c'est quoi? C'est bien d'un côté, on a vraiment une polarité autour des dimensions de contrôle, mais voire même de sécurité. Et on sait ce que c'est aujourd'hui que la dimension sécuritaire. Il me semble que les politiques de l'individu aujourd'hui, dans la dimension sécuritaire, eh bien, c'est typiquement ce registre où ce sont les individus qui sont indexés, filmés, bon, parce que là, il y a ça se décline sous différents moments, mais pour que ce soit l'individu lui-même qui soit non pas dans une logique de réintégration, non pas dans une logique de défense sociale même, hein, mais on est bien dans une logique de peine, et de on en rajoute et on fait de la une politique sécuritaire telle qu'on l'a, et puis et en même temps on peut être à même de voir au nom de cette justice d'autres aspects qui relèvent plutôt et dans le même temps de logique d'émancipation, etc. Donc cette ambivalence là quelles que soient les formulations employées autour de justement la façon dont on cible l'individu dans ces registres à la fois d'émancipation ou de contrôle, ils sont à voir en tension avec évidemment dans la façon dont ça évolue à des moments donnés où le curseur est plutôt vers certains types ou vers certains types de peut-être. Je j'arrête là, mais des idées.
Ça m'a, votre intervention m'a aussi donné envie de dire quelque chose. Premièrement, nous avons été certainement, et c'est toujours les besoins de l'exposition sont compliqués. Il y a une première chose que j'ai envie de dire, c'est ce que nous essayons de décrire, ce n'est pas nécessairement un changement d'époque ou à caractériser une époque, mais des orientations. Non seulement parce que, à l'époque de la modernité organisée, nous identifions des choses qui ressemblent beaucoup aux politiques de l'individu que nous caractérisons aujourd'hui, mais aussi parce que le temps présent n'est pas entièrement fait, heureusement, je crois, par des politiques de l'individu. Il y a beaucoup d'autres formes de régulation et d'organisation qui sont là et qui sont peut-être même dominantes. Deuxième chose que j'aurais envie de dire, si j'interprète bien ce à quoi vous faites référence, il me semble, en tout cas moi personnellement, j'ai un immense problème. Peut-être parce que je suis trop durkheimien et donc les ambivalences ou les paradoxes, pour parler comme Robert, c'est la question de l'émancipation. Comme bien l'a dit aujourd'hui Robert Castel, l'individualisme, disons, pour aller vite du XXe siècle, cet individualisme qui émerge là autour des années 50, selon les pays, est fait de liens sociaux, des contraintes, d'inscriptions collectives, d'un système d'interdépendance extrêmement serré. Et je crois le parti pris de ce type de régulation et de protection, c'est une émancipation, mais de quelque chose de très spécifique. C'est l'émancipation des rapports interpersonnels. Ne pas dépendre d'une autre personne. Ce qui ne veut pas dire une émancipation en soi. Parce qu'on est un individu et on peut s'émanciper relativement, il ne faut pas exagérer non plus, de son mari ou de son patron ou de son médecin, c'est-à-dire qu'on a des droits, parce qu'on est inséré dans un autre système de liens sociaux. Mais ce n'est pas une émancipation en soi, ce n'est pas de la liberté dont il s'agit, c'est une forme de la liberté sociale. Bon. Et inversement, par ces ambivalences dont parlait Marc, beaucoup de demandes aujourd'hui vont dans le sens d'une reconnaissance de la personne. Les individus veulent être reconnus en tant que personne, face à leur médecin par exemple. Je veux pouvoir lui raconter mon histoire et qu'il m'écoute. Alors quand est-ce qu'on est dans le cadre de l'injonction biographique ou de l'expression de ses besoins? C'est très difficile. Et on voit bien que quand on regarde en sociologue, ça change beaucoup d'un individu à l'autre. D'une classe sociale à l'autre, j'ai envie de dire, en termes de genre, en termes de situation sociale, il y a beaucoup de paramètres, et donc parler en termes de positivité pour une période, de négativité pour l'autre, c'est peut-être rentrer dans un schéma qui empêche un regard sociologique en termes de quelle émancipation s'agit-il et de quel type des dépendances, s'agit-il. Après, on a des goûts et des préférences personnelles. Mais par exemple, il y a beaucoup aujourd'hui qui critiquent la contrainte des États de migration. Ah, et ça, c'est une forme d'appartenance collective très forte pour la modernité organisée, qu'on essaye de casser, ou que beaucoup essayent de casser, pour rendre les individus plus libres de traverser les frontières. Et là, il ne s'agit plus de personnes, mais des collectifs. Voilà, il y a des tas d'exemples qui mènent à des ambivalences, comme disait Marc, et pas en termes de négativité d'un côté, de positivité de l'autre.
Alors,
Pour rebondir sur cette question, moi, je m'interrogeais sur la question de l'engagement politique des individus, parce que dans une modernité organisée, une société salariale, on peut voir cet engagement dans un collectif pour une revendication de droit. Mais dans cette société d'individus, comment envisager cet engagement? Est-ce qu'on peut parler encore d'engagement, justement, où vous disiez à la fin de l'exposé, vous évoquiez la question de la prise en compte des besoins vis-à-vis d'un collectif. Donc, est-ce qu'on pourrait envisager la fin de l'engagement des individus, en fait, dans un collectif, et plutôt une demande, une catégorie d'usage vis-à-vis du collectif?
Oui, mais là aussi, enfin, moi je prends comme ça, j'essaye de tenir une ligne, ça peut paraître un petit peu rigide, mais j'allais dire, enfin, l'engagement, c'est pas notre problème. C'est-à-dire que, non pas que ce soit pas une question importante, je crois l'entendre, et vous avez raison de la poser, mais au fond, là, je sais pas, on essaye de décrire les processus, hein, et donc la question, enfin, justement, directement, par exemple, y compris directement politique, bon, elle est posée, elle est à l'arrière-plan, mais je pense que, enfin, en tout cas, elle n'est pas au premier plan. Mais ce serait plutôt, justement, ça permettrait peut-être de la faire, enfin, en tout cas, de la faire avancer, ou en tout cas, de donner des éléments de réflexion pour y réfléchir, parce que ce que je pense, par contre, effectivement, c'est que, à travers la sortie de la modernité organisée, on est dans la décollectivisation. Hein, et là, je crois qu'on pourrait, enfin, on pourrait commenter longuement, on n'a pas le temps de le faire, mais il y a un processus de décollectivisation qui joue très fort et au niveau de tout un ensemble d'institutions. Et alors, je crois que cette décollectivisation, c'est un diagnostic qu'on peut porter sur la situation, sur ce qui s'est passé, en tout cas à travers, par exemple, disons, les 30 dernières années. Mais alors, ça peut poser la question, effectivement, d'abord, cette décollectivisation, elle est quand même relative, elle n'est pas absolue. Je ne sais pas, on pourrait prendre l'exemple des syndicats, par exemple. Bon, c'est vrai, les syndicats ont perdu leur pouvoir, machin. Bon, ils existent encore, et à mon avis, tant mieux, quand même, mais bon. Donc on n'est pas dans une société de purs individus, on est, je pense, dans une société où effectivement les collectifs sont pour le moins affaiblis. Mais ce n'est pas, ça pourrait permettre de penser des perspectives de recollectivisation. Parce que, je crois que dans la modernité organisée, pour reprendre ce vocabulaire pour aller vite, bon, effectivement, il y a eu des processus de collectivisation. Mais, je veux dire, ces collectifs, ils sont pas sortis du jour au lendemain. Au contraire, hein, si on prend, par exemple, l'exemple du monde du travail au XIXe siècle, par exemple, bon, il était il était complètement, je sais pas, atomisé, enfin fragmenté, etc. Et puis, bon, il y a eu ces processus de constitution de quelque chose comme une classe ouvrière avec des appareils, des syndicats, des partis plus ou moins représentatifs, etc. Bon, il n'est pas exclu de penser que dans la situation actuelle, il y ait de la recollectivisation. Et je pense qu'on pourrait en voir des signes. Bon, ben simplement, c'est beaucoup plus fragmentaire et aléatoire. Enfin, je pense par exemple au type d'initiative qui se regroupe un peu autour, par exemple, de l'appel des appels, par exemple, qui est justement d'essayer de mettre ensemble des petits collectifs comme ça qui se sont fondés d'une manière justement ponctuelle souvent, à propos d'une question particulière, et quand même qui constitue du collectif et qui peut ou qui pourrait à la limite s'institutionnaliser davantage, et alors pour retrouver votre question, peut-être être hors d'engagement, et peut-être que l'engagement politique aujourd'hui, enfin en tout cas certains engagements politiques sont de cet ordre, c'est-à-dire je vais dire l'invention, le mot est trop fort peut-être, mais enfin la participation à des formes d'action collective qui ne sont plus nécessairement celles justement qui se sont imposées dans la modernité organisée.
Juste pour compléter, ou en tout cas, on peut aussi se demander si, si jamais c'était notre problème, des formes d'engagement. Bon, je pense que les travaux, par exemple, de Jacques Lyon montrent que l'évolution des formes d'engagement est, grosso modo, des formes d'engagement, y compris des engagements politiques, après c'est la définition du politique, mais en tout cas qui relève de l'évolution où le collectif n'est pas forcément au principe même de l'engagement. Et en ce sens-là, c'est là où on pourrait penser l'évolution des formes, de bon nombre de formes d'engagement qui correspondent à ce qu'on essaie de décrire, à partir de la façon dont ce n'est pas tant la référence à des à un modèle de société, à un modèle général ou à une dimension du collectif qui va jouer dans des rapports de force, mais plutôt à partir de ressorts individuels de sensibilisation qui renvoie à la façon dont les individus eux-mêmes sont mobilisés pour s'engager. Donc peut-être qu'on a quelque chose là de l'ordre d'une réflexion autour de l'engagement politique qui n'est pas forcément conçu dans le cadre du collectif, quoi. Donc pour un petit peu compléter la réponse.
Je ne sais pas si dans cette réalité que nous avons décrite, ou même ici, ou dans cette. Par exemple, au Brésil, nous aussi, on assiste à cette politique de l'individu, même si on a passé très vite par cette question d'une perspective de crise, mais justement, M. Robert Castel, dans le livre « Montée des incertitudes », parle d'une situation d'un précariat, donc une partie de la population qui n'aurait de place, même avec les politiques sociales ou même les politiques de l'individu. Mais même si on n'a pas de place, par exemple, à peu près 10% de la population, est-ce que ces politiques de l'individu, elles ne pourraient pas être perçues ou conçues comme supplémentaires? Et dans le cas de, dans certains cas, elles pourraient vraiment aider à quelques-uns de ces 10% à peu près à s'en sortir. Mais Elle ne donne pas de réponse pour une réalité qui est collective ou perspective qui sont des crises sociales. Pas, c'est pas la question de l'individu.
Si je peux dire un mot, sans doute que les politiques orientées par ce type de raisonnement qu'on a décrit peuvent être d'une grande aide pour beaucoup parmi ces personnes. Mais ce sont des politiques qui raisonnent en termes de ces individus-là, pas de leur trouver une place. On n'assurera pas une place. On peut les aider à mieux se battre, mais ça peut être aussi un travail à recommencer sans cesse, parce que l'une des choses que ces politiques ne peuvent pas interroger, c'est quelles sont les dynamiques qui maintiennent ce 10% de la population dans une situation de précariat et comment attaquer ces dynamiques. Ça, c'est pas leur problème. Hein? C'est pas leur problème de savoir comment ils sont là. Parce que le comment, c'est... Bon, alors, Joao, hein, on va parler de ton cas. Dis-moi pourquoi. Mais ce n'est pas quelque chose qui se passe dans le cadre de la société. Donc là, il y a un changement de registre de la cible de l'action. Et pour prendre un exemple du Brésil, par exemple, la bourse famille, ce n'est pas une politique de l'individu. Parce que c'est un droit conditionné à des tas de paramètres, mais voilà, on s'intéresse pas à Joao, particulièrement dans son cas, dans sa situation singulière. On s'intéresse à tous ceux qui sont sous un seuil ou dans une condition X, et on donne une ressource pour qu'ils s'essaient. Bon, et eux, ils vont essayer de voir comment ils s'en sortent. La politique de la bourse famille est individualiste dans le sens où elle leur donne un point d'appui. Qui est peut-être petit, mais c'est un point d'appui. Voilà. Mais il n'y a pas un travailleur social derrière pour voir si, voilà, qu'est-ce qu'il fait s'il s'achète avec cet argent un vélo ou du riz.
Excuse-moi, mais seulement pour compléter. Et justement, si on a cette perspective générale, un droit, une logique du droit, on aurait quand même la possibilité, les besoins, disons par exemple, des gens qui sortent de prison. Par exemple, au Brésil, là, on aurait besoin justement d'une personne pour écouter quels sont les besoins. Et disons, mais justement, une politique de l'individu, elle n'est pas suffisante pour mener à ces changements. Parce qu'on aurait besoin donc à ce moment-là, tout d'abord, de changer cette personne de l'endroit où elle vivait. Parce que si elle rentre, à la place, donc c'est déjà perdu. Donc elles ne sont pas sérieuses. Et c'est ça que je perçois au moins, ce que j'accompagne au Brésil.
Il y avait une question derrière, une question au milieu, et après une question au devant.
On voit bien que, quand même, dans les trois interventions, comment. On parle de la question du sujet. Comment le sujet peut devenir un problème social quand il déborde justement le protocole des politiques de l'individu. Et ça, donc, j'aurais bien aimé quand même vous interroger là-dessus, comment donc, le sujet redevient un problème social quand il déborde sa politique de l'individu et qu'il finalement. Déjoue aussi ces logiques, ces logiques d'individuation ou d'assujettissement. Mais malgré tout aussi, ça, c'est vrai que cette question, enfin, ce paradoxe que vous avez décrit au début d'un individu qui peut émerger que dans l'inscription dans ces collectifs, autant, enfin, on voit bien les ambivalences de la politique éducaire. Mais je ne vois pas très bien encore comment ces ambivalences elles deviennent problèmes sociaux, posent un problème au collectif, mais comment elles peuvent recréer du collectif. Voilà, ça j'ai une double question. Donc, sur le point.
Merci.
Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.
en partiel, enfin, c'est une réponse partielle, mais il me semble qu'elle pose un problème social parce qu'elle crée de la conflictualité sociale. En tout cas, pour ce qui est de la, je veux dire, de la partie là, que j'ai prise là, sur la, bon, la modernité organisée, bon, ben, cette espèce de paradoxe, effectivement, du statut de l'individu d'être relativement indépendant, mais à condition qu'il subisse de fortes contraintes, bon, eh bien, ça se traduit justement par des tensions et par des conflits sociaux. Je crois que, par exemple, une partie de la conflictualité dans le monde du travail autour des années 68, aussi d'ailleurs d'une manière, me semble-t-il, plus intense encore en Italie, il y a eu une espèce de quasi-révolte d'une part assez importante de ce qui constituait la classe ouvrière contre justement ces formes d'encastrement collectif qui en même temps donnait sa consistance au monde du travail, bon ben ça débouche, enfin justement, donc sur du conflit social, sur de la question sociale, éventuellement sur des réponses politiques. Enfin, en tout cas, c'est partiellement, il y a sans doute d'autres dimensions aussi.
Quand on pense à la critique qui émerge dans les années 60 et 70 et 50 aux États-Unis, là, beaucoup de la critique qui est faite à la modernité à ce moment-là et aux institutions, à la forme des institutions, c'est critique des institutions, de l'État, c'est fait au nom du sujet, et c'est pour ça que l'un des thèmes privilégiés de l'époque était celui de l'aliénation. Et donc c'est dans ce sens-là que c'est paradoxal, c'est-à-dire il y a au moment du plus grand individualisme, c'est le moment où la critique des institutions qui, dans une grande mesure, rend possible cet individualisme, se fait. Et ça, serait idiot de penser que les critiques étaient... que ça a été une mauvaise chose, quoi. Elles sont faites, pour beaucoup, je crois, quand on lit aujourd'hui la littérature de l'époque, dans la revendication du sujet contre l'individu, justement. Hein, pour une bonne part. Contre l'individualisme de masse. Hein.
Il y a aussi la revendication de collectivité, d'autres formes de collectif. Hein.
Aussi, oui.
Pas seulement des individus. Hein.
Mais c'était parce qu'ils étaient des individus qu'ils pouvaient penser ça.
L'assujettissement, donc, il ramène bien à des inscriptions dans des rapports sociaux, et donc, du coup, à de la conflictualité. Et peut-être que c'est une des manières, justement, d'accommoder, de réinscrire du collectif, etc. C'est sûrement dans toute la complexité de l'articulation des rapports sociaux, etc., de voir la façon dont la conflictualité joue pour faire faire en sorte que l'espace public ne soit pas envahi que par des logiques de politique de l'individu. Voilà, il y aurait peut-être quelque chose, une piste là pour te répondre.
Dans l'expression « la politique des individus », vous nous avez fort bien expliqué ce que voulaient dire les individus, mais vous n'avez pas dit pourquoi c'est une politique. Je pense que c'est un vrai problème.
C'est les politiques.
Les politiques.
Oui. C'est une orientation.
Oui, je pense que c'est une orientation.
Ça ne change pas son problème, je crois.
Cassel a commencé en faisant remarquer que les individus ne précédaient pas la politique et que ces individus étaient produits par un certain type de politique qui déprimait, les encadrait, etc. Tu as expliqué que les politiques de l'individu ne visaient pas à réintégrer les individus dans la société, mais à les armer moralement et psychologiquement.
psychologiquement, ouais, matériellement aussi,
matériellement, hein, pour, voilà, être pour eux-mêmes les entrepreneurs de leur vie. Et Marc a pris comme référence le care et la sollicitude comme étant la forme que prend cette politique de l'individu. Mais dans ce cas-là, au point d'arrivée, l'individu est l'objet de la sollicitude de la politique, alors qu'au point de départ, l'individu était le produit d'une politique d'encadrement. Donc, politique est devenue quoi entre-temps ? C'est-à-dire, pourquoi ça s'appelle une politique ou des politiques ? Que veut dire le mot politique là ?
C'est ça,
vous avez dit
simplement
l'intervention de l'État pour l'action de l'État.
Oui, dans une politique dans le sens de police, d'une initiative publique. C'est pas seulement l'État, il y a d'autres institutions qui vont dans le même sens. On est trop habitué en France que ce soit l'État. Ça peut être l'entreprise, les syndicats.
Ma question vient du fait que je pense que le CAIR, c'est l'antipolitique par excellence. Que si le care est la forme, que une des formes que peut prendre cette idée d'une politique des individus, ça devient quand même un peu problématique.
Non, mais peut-être une des choses qu'on devrait vous inviter à souligner davantage, c'est que il y a une évolution des politiques et même un changement sans doute du sens des politiques, parce que le bout là que j'avais pris en charge, c'est-à-dire avant qu'il y ait des politiques d'individus, on pourrait caractériser, je pense, assez facilement, c'est les politiques sociales. Bon, par exemple, la loi, j'ai parlé de la retraite, par exemple, eh bien, je pourrais entrer dans le détail. C'est d'abord ce qui en France a commencé à être institué par la loi sur les retraites ouvrières et paysannes de 1910, bon, qui était un petit peu du bidon, etc., parce que, ne serait-ce que parce que les gens crevaient en général avant de la toucher, mais que ça a été une espèce de matrice quand même de quelque chose d'assez fort. Et donc on voit dans ce cas, c'est justement le sens là, des politiques sociales qui sont justement déployées par l'État pour assurer une protection généralisée et un petit débouche en tout cas sur une sécurité sociale assez généralisée. Et sans doute, mais là effectivement je crois qu'il faudrait peut-être préciser les choses, c'est certain que le CAIR est un autre type de politique et donc en tout cas je crois que ce qu'on essaye de montrer, justement, n'implique pas qu'il y ait une unité des politiques de l'individu. C'est au contraire, justement, que elles-mêmes, non seulement leur forme, leur esprit, se transforment, et simplement, sans doute, qu'il faudrait peut-être qu'on précise un petit peu les choses, effectivement, réfléchir en quoi. Bon, parce que. Le CAIR, qui ne sera pas d'ailleurs la seule, ça ne veut pas dire que le CAIR, c'est pas parce que Marc a parlé en dernier que le CAIR, ça va être la fin de l'histoire. c'est une, effectivement, sans doute, des cristallisations actuelles, mais d'accord avec vous qu'il faudrait sans doute définir mieux différentiellement par rapport à d'autres formes que nous appelons aussi des politiques de l'individu.
Si je peux réagir là-dessus pour je ne sais pas si j'ai bien compris le sens de ta question, mais là quand je disais au début que pour nous les politiques de l'individu ne sont pas un groupe des mesures ou des politiques d'initiative de l'État ou d'un organisme dont on pourrait faire la liste. Par exemple, les politiques d'individu sont le RSA, le CAIR, le ceci, le cela. Bon. Non. C'est une manière d'aborder la régulation sociale que nous essayons de décrire et qui se trouve parfois clairement visible dans un dispositif quelconque. Par exemple, le traitement du chômage a beaucoup évolué ces dernières années. Mais on ne peut pas dire que l'AMPE, ce sont des agences de politique de l'individu. Mais c'est vrai que la mise en place des formes de conseils personnalisés, de suivi, etc. Ce sont des interventions qui changent complètement la donne par rapport à une époque où le traitement de ce même type de phénomène se faisait par, bon, vous avez comme exigence de chercher du travail et en attendant, on va vous garantir un revenu. Et ça s'arrêtait là. Donc la mise en place d'un dispositif nouveau nous permet de voir que pour décrire ce dispositif, on peut parler de politique de l'individu. Mais c'est la nature des initiatives plus qu'un groupe de politiques dont on pourrait faire la liste dans des ministères ou dans des agences ou dans des... C'est ça que je... Mais je ne sais pas si ça répond à la question.
Le problème est simplement de savoir en quoi des technologies individualisées d'aide aux individus en difficulté pourraient s'appeler politiques. Moi, je fais ça avec ma fille de 4 ans. Je l'aide beaucoup quand elle a des difficultés. Je ne crois pas que ce soit une politique. Et c'est pas parce qu'on traite les individus.
Mais tu n'es pas une institution, à proprement parler. Et il y a une différence entre les...
C'est quand même une institution.
Pardon, hein? Ta sœur est une institution, c'est vrai. Mais je veux dire, vis-à-vis de ta fille.
C'est une institution aussi.
Vis-à-vis de sa
fille. Oui, je pense.
Nous, non, mais vis-à-vis de sa fille.
Non, je pense qu'il y a une différence quand il y a quelque chose qui se détache pour justement. Médiatiser les rapports sociaux, hein, qu'on s'est donné à un tiers, à la charge d'un tiers. Par exemple, ce n'est pas toi qui assure intégralement l'éducation de ta fille, tu l'envoies à l'école. Bon, la nature de la chose change. Et on peut, à ce titre-là, parler d'une politique éducative. Mais c'est seulement, en tout cas moi, dans ce plat et simple registre que je... Quand je pense aux politiques d'individus
Il y avait une question derrière
peut-être
le pilier.
Peut-être il y a quelque chose qui me charge.
Une question derrière le pilier. Là.
Oui. Parmi les choses que Denis Bertrand a mentionnées pour caractériser les politiques de l'individu, il y a le fait qu'on ne fait plus référence à la société, mais à l'intégration. Au fond, ces nouvelles politiques de l'individu ne se présentent pas comme intégratives et ne se rapportent pas à une entité ou à une référence qui serait la société. Et alors, la question que je me pose, c'est, au fond, s'il n'y a plus de société, il n'y a plus de sociologie, il n'y a plus d'individus, en tous les cas, non plus. Et, enfin, la société a été une idée régulatrice à partir du milieu du 18e siècle, disons, et les concepts que nous utilisons et la façon dont nous réfléchissons à ces questions-là sont étroitement déterminés par le succès de cette idée régulatrice, la façon dont elle a formé la culture, etc., tout au long de cette histoire que vous avez évoquée. Si bien derrière ce que vous pointez comme politique des individus, vous n'allez plus répondre quand même à de toute façon à des lignes budgétaires, des professionnels, un savoir constitutif, d'un mode d'intervention, des procédures, des choses comme ça, c'est ça que les sociologues appellent les politiques assez souvent. Mais au fond, au-delà de cette caractérisation-là, est-ce qu'on ne se trouve pas conceptuellement, justement, dès lors que l'on parle d'individu dans un contexte où la notion régulatrice de société aurait disparu, est-ce qu'on ne se trouve pas un peu devant un vide conceptuel, ou en tout cas posé sur un rocher au bord du vide, dans la mesure où justement ces individus, on ne sait pas quel type d'entité est-ce qu'on peut les rapporter. Et donc, est-ce que si la subjectivation ou la subjectivité à juste titre n'intéresse pas le sociologue parce qu'elle est trop vaseuse quoi, pour aller vite, peut-être il n'empêche pas qu'elle est au fond qu'elle court parallèlement et souterrainement à cette histoire de la société et de l'individu que vous avez en partie mobilisé pour votre propos. Et dès lors, est-ce que, par exemple, le thème du Caire ne vient pas comme une résurgence, hein, de quelque chose qui renverrait justement d'une façon plus, profondes, quoi, enfin, qui sont plus dans les souterrains de cette histoire-là, à des formes de subjectivité, de subjectivation émergente.
Mais
c'est toi qui as dit qu'il y avait
Oui, comme je ne suis pas non plus complètement tourénien, bien que j'ai été un peu contaminé quand j'étais petit, ce que je dis, c'est que ces conceptions des politiques publiques, qu'on appelle politiques d'individus, n'ont pas derrière elles, ne visent pas la production d'un ordre social à proprement parler. C'est ce que je crois. Et je pense, alors là c'est mon sentiment profond, c'est que si elle régnait sans partage, elle nous mettrait dans une situation de vide. Mais heureusement, nous serons là pour l'empêcher.
C'est sûr. Oui, parce que il me semble, peut-être d'ailleurs que Denis a employé une expression un petit peu poussée, il n'y a plus de société, mais en tout cas, je pense que même c'est pas ce que nous pensons. Moi en particulier, effectivement, je demeure un Durkheimien difficilement corrigible. Je crois toujours qu'il y a de la société, qu'il y a de la contrainte sociale, etc. Mais il me semble que ce que Denis voulait dire, c'est que bon, pour les gens qui mettent en place ces politiques. Disons, pour aller très vite, une orientation néolibérale, qui justement se cristallise dans la formule peut-être faire de l'individu l'entrepreneur de lui-même, alors pour eux, effectivement, il n'y a quasi plus de société. C'est plutôt ça que.
J'ajouterais, mais peut-être là je vais me faire brûler dans la place publique. Il y a beaucoup de formes de pensée de gauche qui vont aussi par d'autres chemins vers la revendication du sujet, etc. Qui s'attaquent aux structures, disons, comme étant des structures de la domination, etc. Combien de gens de gauche ne fêteraient pas la fin des syndicats, par exemple? Ils seraient nombreux. C'est dans ça qu'il y a beaucoup d'ambivalence, et Marc a raison d'insister là-dessus. Ce type d'initiative ne va pas dans son seul sens. Et je ne pense pas que toutes les conséquences soit de l'ordre de l'atomisation ou du désordre social. Il peut y avoir effectivement des effets positifs ou des bonnes choses dans ce type d'initiative, mais elle ne vise pas la régulation sociale, je crois. C'était ça que je voulais dire. Elles n'ont pas, quand elles promeuvent l'individu, l'autonomie, etc., elles ne sont pas dans le souci de la construction d'un système de régulation, d'un système d'ordre au sens de... Par exemple, il n'y a pas une place définie. Quand on pense à l'emploi stable, c'est une politique des places. On conçoit des places où on donne un emploi à quelqu'un comme si on lui donnait un bout de terre. Et quand on veut rendre un type formé, mobile et apte à se débrouiller, à trouver du travail, à avoir une activité, à se procurer un revenu, on pense différemment. C'était dans ce sens-là, mais j'ai peut-être exagéré en disant qu'il n'y avait pas une idée de société.
C'est en tout cas tendanciellement dit, dans leur perspective.
Oui, c'est dans ce sens-là.
On s'arrête ou on peut encore poser une question?
Il y a quelqu'un après à ça?
Non, mais c'est à nous de savoir.
On va avoir un peu de temps.
Moi j'avais une... Je m'étais inscrite.
À Nicolas.
Et après, Barthélémy, peut-être quelqu'un d'autre.
Nicolas,
c'est qui?
C'est quelqu'un qui est ici.
C'est Nicolas. Donc, je peux poser une question avant. Je me suis rendu compte en vous écoutant qu'il y avait
une valeur donnée au droit dans votre façon d'aborder les questions. Et qu'au fond, si vous évitiez la notion de sujet, vous aviez, enfin, c'était tout à fait justifié par rapport à ce que vous cherchiez à nous dire, c'est-à-dire que tant qu'on est dans des revendications de droit, au fond, et en particulier lorsque le droit devient droit social, parce qu'effectivement, il y a toute la question du passage du droit libéral qui est un individu abstrait, et le passage au droit social qui qualifie l'individu abstrait pour dire, par exemple, ça va être le travailleur, la femme, la mère, l'enfant, etc., qui est la cible du droit. Mais en même temps, d'après ce que vous nous avez expliqué, par exemple à cette histoire de retraite, tant que la prestation attendue de l'État est conçue comme un droit, ça laisse une liberté à être un sujet, au fond. C'est-à-dire que, ben voilà, ce que vous allez faire une fois que vous avez perçu votre cagnotte, ça n'intéresse personne. Et donc, ça vous permet ce que nous appellerions une subjectivation. Et à ce moment-là, on est du côté du sujet. Tandis que dans la nouvelle configuration, on a l'impression que, avec cette histoire d'injonction biographique, quand on veut percevoir telle ou telle prestation, que l'on enjoint les individus à être des sujets, justement, à se raconter, etc., pour qu'ils puissent obtenir ce à quoi ils ont droit. Et donc là, il y a toute une espèce de réinjection de la subjectivation dans quelque chose qui est aussi une désubjectivation. Parce que c'est produire aussi des discours. Enfin, parce que les discours que produisent les gens, il me semble qu'ils sont aussi des discours. Ils vont se mettre à raconter ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux que l'on raconte. C'est pas nécessairement véritablement ce qu'ils auraient à raconter s'ils racontaient d'une manière, disons, spontanée à quelqu'un parce qu'ils ont un problème ou quoi que ce soit. Donc ça produit une subjectivation, mais qui est aussi. Et aussi, il doit y avoir des ruses. C'est-à-dire, après tout, dans les dispositifs que vous décrivez, on pourrait aussi se dire que bon, les gens, quand on leur dit « bon, bah, alors racontez-moi », etc., ils savent très bien qu'est-ce qu'ils ne doivent pas dire et qu'est-ce qu'ils vont s'arranger pour dire pour avoir le fric, quoi, en gros. Donc, est-ce que vous avez aussi travaillé les ruses mises en place par les gens, au fond, qui sont les cibles de ces prestations, parce que au fond, eux aussi, ils jouent aussi le truc pour obtenir ce qu'ils ont.
En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, vous résumez bien, y compris les deux aspects, y compris par rapport à la partie dont j'ai parlé, la force du droit. C'est parce que cet individu est propriétaire de droit qu'il a cette consistance. Mmh. Et alors, quant à les ruses, je ne sais pas, parce que ça nous prendrait des années. Parce que les ruses. Non, parce que je crois qu'on est plutôt au niveau de la définition de ces politiques que de la manière, je crois, dont concrètement elles s'appliquent sur le terrain, c'est-à-dire aussi la manière dont elles sont contournées, détournées, etc., me semble-t-il.
Oui, au demeurant, je pense qu'ils sont pas bons, évidemment, mais il n'y a pas mal. Sur des terrains qu'on a pu faire, et évidemment plein d'autres travaux on s'intéresse, et heureusement, justement, à la manière dont face à ces dispositifs, on existe, y compris en contournant, en détournant, tout en ayant, en sachant ce qu'on veut, etc. Et heureusement, c'est peut-être là ce que tu appelles retrouver aussi des façons d'une forme de subjectivation.
Alors, il y avait deux interventions.
Non, c'est marrant.
Non. Il y avait quelqu'un. Ah oui, Barthélémy. Oui.
En fait, c'est une question sur des expressions que vous avez employées. Alors, peut-être que j'ai mal compris, mais je sens bien que dans l'intervention à laquelle un paradoxe, c'était le fait qu'il y ait une présence plus forte de l'individu avant des
voulais savoir si dans le projet du livre, il y avait mis en perspective historique sur le long terme, sur ce qu'était cette présence, que signifiait finalement l'expression plus forte, les présences plus fortes de l'individu avant l'interrogabilité, c'est-à-dire comment caractériser le rapport de l'individu social avant ces politiques-là, pour savoir justement ce qu'on changeait ces politiques. Et d'autres expressions, c'était celle qui était employée par Denis Mertel, qui disait que dans la postmodernité organisée, on sortait du contrôle social, en quelque sorte. Enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt finalement un transfert d'un contrôle social externe à un contrôle social interne. Et je voulais savoir la constitution de cette sorte de surmoi social, en fait, à l'intériorité. Comment est-ce que vous mettez en rapport justement ces processus cognitifs et sociaux et quel type d'exemple vous comptez développer pour justement caractériser cet enjeu.
Alors sur la première question, je pense que je pourrais y répondre. Mais ça prendrait du temps, parce que, non, je crois qu'effectivement, cette dynamique qui culmine sans doute dans les années 60, début des années 70, c'est le résultat d'un long processus, et qui est passé par des étapes différentes, aussi qu'il y a à l'arrière-plan, il y a tout un ensemble de... il y a des conflits sociaux, il y a des luttes, comme on dit, il y a aussi des compromis, etc. Donc c'est quelque chose, c'est pas, à mon avis, bon, c'est pas mystérieux, enfin, je vais essayer d'éclairer ça un petit peu, mais ce serait un peu emmerdant, enfin, de sortir ce type de... ça là, dans... En ce moment, je crois.
Et non, et puis sur la partie du contrôle social, oui, effectivement, mais ça fait partie, encore une fois, des ambiguïtés qu'on évoque. Je disais qu'il me semble que le rapport interpersonnel qui s'installe souvent cherche à sortir du modèle de la tutelle telle qu'il a pu être critiqué dans le travail social classique, et souvent il est présenté plus avec l'idée d'accompagnement, d'accompagnement. Donc, mais ça ne veut dire dans aucun cas, parce que ce serait trop beau, qu'il n'y a plus que ces politiques ou ce type d'orientation n'induisent aucune forme de contrôle social. Mais il me semble que la forme qui est privilégiée, c'est celle de l'injonction à l'activation. Hein, il faut être actif, il faut être entrepreneur, etc. Beaucoup plus que se tenir à être, par exemple, un bon travailleur ou un bon père, qui était des injonctions ou des paramètres moraux plus caractéristiques du travail social des années 50, 60, 70, etc. Et c'est dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une recherche effectivement à certains égards qu'on pourrait qualifier de positive, de dire bon, mais on ne va pas surveiller la personne, mais on sait bien que ces injonctions sont aussi des formes, peuvent conduire ou induire à des formes de contrôle et de domination, d'écrasement de l'autre, de désorientation aussi, quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Voilà, il y a beaucoup de... Mais ça, comme Marc le rappelait, il y a beaucoup de travaux qui décrivent ça dans le détail et amplement, disons.
C'est-à-dire que, le contrôle, il est plutôt sur le modèle normatif, le modèle tutélaire, pas les dimensions tutélaires, que sur les modalités. D'où, justement, le fait que cette logique de l'activation, de technique, de recyclage des biographies, pour qui n'est pas tant pour vérifier qu'on est conforme à un modèle, mais qu'on se mobilise conformément à justement cette logique d'activation, de mise en mobilité. Ben, c'est pas le problème, pas tant que c'est pire ou c'est mieux, c'est que.
Bon, eh bien, ben, merci beaucoup tous les trois.
Merci.
Merci à vous d'être venus et d'avoir participé. Et alors, bonnes vacances à tout le monde. Et on se retrouve à la semaine de la rentrée. Il y a un séminaire et il y a 3 séances de suite à la rentrée. Hein.
Merci. Et